L'île mystérieuse de Jules Verne, dit par Jean-François Ricoux pour audiocité.net. Chapitre 16. On était au 6 mai, jour qui correspond au 6 novembre des contrées de l'hémisphère boréal. Le ciel s'embrumait depuis quelques jours, et il importait de prendre certaines dispositions en vue d'un hivernage. Toutefois, la température ne s'était pas encore abaissée sensiblement, et un thermomètre centigrade transporté à l'île Lincoln eut encore marqué une moyenne de 10 à 12 degrés au-dessus de zéro. Cette moyenne ne saurait surprendre puisque l'île Lincoln, située très vraisemblablement entre le 35e et le 40e parallèle, devait se trouver soumise, dans l'hémisphère sud, aux mêmes conditions climatériques que la Sicile ou la Grèce dans l'hémisphère nord. Mais, de même que la Grèce ou la Sicile éprouvent des froids violents qui produisent neige et glace, de même l'île Lincoln subirait sans doute, dans la période la plus accentuée de l'hiver, certains abaissements de température contre lesquels il convenait de se prémunir. En tout cas, si le froid ne menaçait pas encore, la saison des pluies était prochaine, et sur cette île isolée, exposée à toutes les intempéries du large, en plein océan Pacifique, les mauvais temps devaient être fréquents et probablement terribles. La question d'une habitation plus confortable que les cheminées dut donc être sérieusement méditée et promptement résolue. Pencroff, naturellement, avait quelque prédilection pour cette retraite qu'il avait découverte. Mais il comprit bien qu'il fallait en chercher une autre. Déjà, les cheminées avaient été visitées par la mer, dans des circonstances dont on se souvient, et on ne pouvait s'exposer de nouveau à pareil accident. D'ailleurs, ajouta Cyrus Smith, qui, ce jour-là, causait de ces choses avec ses compagnons, nous avons quelques précautions à prendre. Pourquoi ? L'île n'est pas habitée, dit le reporter. Cela est probable, dit l'ingénieur, bien que nous ne l'ayons pas explorée encore dans son entier, mais si aucun être humain ne s'y trouve, je crains que les animaux dangereux n'y abondent. Il convient donc de se mettre à l'abri d'une agression possible et de ne pas obliger l'un de nous à veiller chaque nuit pour entretenir un foyer allumé. Et puis, mes amis, il faut tout prévoir. Nous sommes ici dans une partie du Pacifique, souvent fréquentée par les pirates malais. Quoi ? Dit Harbert, à une telle distance de toute terre ? Oui, mon enfant, répondit l'ingénieur, ces pirates sont de hardis marins, aussi bien que des malfaiteurs redoutables, et nous devons prendre nos mesures en conséquence. Eh bien, répondit Pencroff, nous nous fortifierons contre les sauvages à deux et à quatre pattes. Mais, monsieur Cyrus, ne serait-il pas à propos d'explorer l'île dans toutes ses parties avant de rien entreprendre ? Cela vaudrait mieux, ajouta Gédéon Spilett. Qui sait si nous ne trouverons pas sur la côte opposée une de ces cavernes que nous avons inutilement cherchées sur celle-ci ? Cela est vrai, répondit l'ingénieur, mais vous oubliez, mes amis, qu'il convient de nous établir dans le voisinage d'un cours d'eau, et que, du sommet du mont Franklin, nous n'avons aperçu vers l'ouest ni ruisseau ni rivière. Ici, au contraire, nous sommes placés entre la Mercy et le lac Grant, avantage considérable qu'il ne faut pas négliger. Et, de plus, cette côte orientée à l'est n'est pas exposée comme l'autre aux vents alizés, qui soufflent du nord-ouest dans cet hémisphère. Alors, monsieur Cyrus, répondit le marin, construisons une maison sur les bords du lac. Ni les briques, ni les outils ne nous manquent maintenant. Après avoir été briquetier, potier, fondeur, forgeron, nous saurons bien être maçons, que diable. Oui, mon ami, mais avant de prendre une décision, il faut chercher. Une demeure dont la nature aurait fait tous les frais nous épargnerait bien du travail, et elle nous offrirait sans doute une retraite plus sûre encore, car elle serait aussi bien défendue contre les ennemis du dedans que contre ceux du dehors. En effet, Cyrus, répondit le reporter, mais nous avons déjà examiné tout ce massif granitique de la côte, et pas un trou, pas une fente. Non, pas une, ajouta Pencroff. Ah, si nous avions pu creuser une demeure dans ce mur, à une certaine hauteur, de manière à la mettre hors d'atteinte, voilà qui eût été convenable. Je vois cela d'ici, sur la façade qui regarde la mer, 5 ou 6 chambres, avec des fenêtres pour les éclairer, dit Harbert en riant. Et un escalier pour y monter, ajouta Nab. Vous riez, s'écria le marin, et pourquoi donc? Qu'y a-t-il d'impossible à ce que je propose? Est-ce que nous n'avons pas des pics et des pioches? Est-ce que M. Cyrus ne saura pas fabriquer de la poudre pour faire sauter la mine? N'est-il pas vrai, M. Cyrus, que vous ferez de la poudre le jour où il nous en faudra? Cyrus Smith avait écouté l'enthousiaste Pencroff développant ses projets un peu fantaisistes. Attaquer cette masse de granit, même à coups de mine, c'était un travail herculéen, et il était vraiment fâcheux que la nature n'eût pas fait le plus dur de la besogne. Mais l'ingénieur ne répondit au marin qu'en proposant d'examiner plus attentivement la muraille, depuis l'embouchure de la rivière jusqu'à l'angle qui la terminait au nord. On sortit donc, et l'exploration fut faite sur une étendue de 2000 environ, avec un soin extrême. Mais en aucun endroit, la paroi, unie et droite, ne laissa voir une cavité quelconque. Les nids des pigeons de roche qui voletaient à la cime n'étaient en réalité que des trous forés à la crête même et sur la lisière irrégulièrement découpée du granit. C'était une circonstance fâcheuse, et quant à attaquer ce massif, soit avec le pic, soit avec la poudre, pour y pratiquer une excavation suffisante, il n'y fallait point songer. Le hasard avait fait que, sur toute cette partie du littoral, Pencroff avait découvert le seul abri provisoirement habitable, c'est-à-dire ces cheminées qu'il s'agissait pourtant d'abandonner. L'exploration achevée, les colons se trouvaient alors à l'angle nord de la muraille, où elle se terminait par ces pentes allongées qui venaient mourir sur la grève. Depuis cet endroit, jusqu'à son extrême limite à l'ouest, elle ne formait plus qu'une sorte de talus, épaisse agglomération de pierres, de terre et de sable, reliée par des plantes, des arbrisseaux et des herbes, inclinée sous un angle de 45 degrés seulement. Ça et là, le granit perçait encore et sortait par pointes aiguës de cette sorte de falaise. Des bouquets d'arbres s'étageaient sur ses pentes et une herbe assez épaisse la tapissait. Mais l'effort végétatif n'allait pas plus loin et une longue plaine de sable qui commençait au pied du talus s'étendait jusqu'au littoral. Cyrus Smith pensa, non sans raison, que ce devait être de ce côté que le trop-plein du lac s'épanchait sous forme de cascade. En effet, il fallait nécessairement que l'excès d'eau fourni par le Creek Rouge se perdît en un point quelconque. Or, ce point, l'ingénieur ne l'avait encore trouvé sur aucune portion des rives déjà explorées, c'est-à-dire depuis l'embouchure du ruisseau, à l'ouest, jusqu'au plateau de Grande Vue. L'ingénieur proposa donc à ses compagnons de gravir le talus qu'ils observaient alors et de revenir aux cheminées par les hauteurs en explorant les rives septentrionales et orientales du lac. La proposition fut acceptée et en quelques minutes Harbert et Nab étaient arrivés au plateau supérieur. Cyrus Smith, Gédéon Spilett et Pencroff les suivirent d'un pas plus posé. À 200 pieds, à travers le feuillage, La belle nappe d'eau resplendissait sous les rayons solaires. Le paysage était charmant en cet endroit. Les arbres, aux tons jaunis, se groupaient merveilleusement pour le régal des yeux. Quelques vieux troncs énormes, abattus par l'âge, tranchaient par leur écorce noirâtre sur le tapis verdoyant qui recouvrait le sol. Là caquetait tout un monde de cacatoès bruyants, véritables prismes mobiles, qui sautaient d'une branche à l'autre. On eût dit que la lumière n'arrivait plus que décomposée à travers cette singulière ramure. Les colons, au lieu de gagner directement la rive nord du lac, contournèrent la lisière du plateau, de manière à rejoindre l'embouchure du creek sur la rive gauche. C'était un détour d'un mille et demi au plus. La promenade était facile, car les arbres, largement espacés, laissaient entre eux un libre espace. On sentait bien que, sur cette limite, s'arrêtait la zone fertile, et la végétation s'y montrait moins vigoureuse que dans toute la partie comprise entre les cours du creek et de la Mercy. Cyrus Smith et ses compagnons ne marchaient pas sans une certaine circonspection sur ce sol nouveau pour eux. Arcs, flèches, bâtons emmanchés d'un fer aigu, c'étaient là leurs seules armes. Cependant, aucun fauve ne se montra, et il était probable que ces animaux fréquentaient plutôt les épaisses forêts du sud. Mais les colons eurent la désagréable surprise d'apercevoir Top s'arrêter devant un serpent de grande taille, qui mesurait 14 à 15 pieds de long. Nab l'assomma d'un coup de bâton. Cyrus Smith examina ce reptile, et déclara qu'il n'était pas venimeux, car il appartenait à l'espèce des serpents diamants dont les indigènes se nourrissent dans la Nouvelle-Galles du Sud. Mais il était possible qu'il en existât d'autres dont la morsure est mortelle, telles que ces vipères sourdes à queue fourchue qui se redressent sous le pied, ou ces serpents ailés munis de deux oreillettes qui leur permettent de s'élancer avec une rapidité extrême. Top, le premier moment de surprise passé, donnait la chasse aux reptiles avec un acharnement qui faisait craindre pour lui. Aussi, son maître le rappelait-il constamment. L'embouchure du Creek Rouge, à l'endroit où il se jetait dans le lac, fut bientôt atteinte. Les explorateurs reconnurent sur la rive opposée le point qu'ils avaient déjà visité en descendant du mont Franklin. Cyrus Smith constata que le débit d'eau du creek était assez considérable. Il était donc nécessaire qu'en un endroit quelconque, la nature eût offert un déversoir au trop-plein du lac. C'était ce déversoir qu'il s'agissait de découvrir, car, sans doute, il formait une chute dont il serait possible d'utiliser la puissance mécanique. Les colons, marchant à volonté, mais sans trop s'écarter les uns des autres, commencèrent donc à contourner la rive du lac qui était très accore. Les eaux semblaient extrêmement poissonneuses, et Pencroff se promit bien de fabriquer quelques engins de pêche afin de les exploiter. Il fallut d'abord doubler la pointe aiguë du nord-est. On eût pu supposer que la décharge des eaux s'opérait en cet endroit, car l'extrémité du lac venait presque à fleurer la lisière du plateau. Mais il n'en était rien, et les colons continuèrent d'explorer la rive, qui, après une légère courbure, redescendait parallèlement au littoral. De ce côté, la berge était moins boisée, mais quelques bouquets d'arbres, semés çà et là, ajoutaient au pittoresque du paysage. Le lac Grant apparaissait alors dans toute son étendue, et aucun souffle ne ridait la surface de ses eaux. Top, en battant les broussailles, fit lever des bandes d'oiseaux divers, que Gédéon Spilett et Harbert saluèrent de leurs flèches. Un de ces volatiles fut même adroitement atteint par le jeune garçon, et tomba au milieu d'herbes marécageuses. Top se précipita vers lui, et rapporta un bel oiseau nageur, couleur d'ardoise, à bec court, à plaque frontale très développée, aux doigts élargis par une bordure festonnée, aux ailes bordées d'un liséré blanc. C'était un foulque de la taille d'une grosse perdrix, appartenant à ce groupe des macrodactyles qui forment la transition entre l'ordre des échassiers et celui des palmipèdes. Triste gibier, en somme, et d'un goût qui devait laisser à désirer. Mais Top se montrerait sans doute moins difficile que ses maîtres, et il fut convenu que le foulque servirait à son souper. Les colons suivaient alors la rive orientale du lac, et ils ne devaient pas tarder à atteindre la portion déjà reconnue. L'ingénieur était fort surpris, car il ne voyait aucun indice d'écoulement du trop-plein des eaux. Le reporter et le marin causaient avec lui, et il ne leur dissimulait point son étonnement. En ce moment, Top, qui avait été fort calme jusqu'alors, donna des signes d'agitation. L'intelligent animal allait et venait sur la berge, s'arrêtait soudain et regardait les eaux, une patte levée, comme s'il eût été en arrêt sur quelque gibier invisible. Puis il aboyait avec fureur, enquêtant pour ainsi dire, et se taisait subitement. Ni Cyrus Smith, ni ses compagnons n'avaient d'abord fait attention à ce manège de Top, mais les aboiements du chien devinrent bientôt si fréquents que l'ingénieur s'en préoccupa. « Qu'est-ce qu'il y a, Top ? » demanda-t-il. Le chien fit plusieurs bonds vers son maître, et laissant voir une inquiétude véritable, il s'élança de nouveau vers la berge. Puis tout à coup il se précipita dans le lac. « Ici, Top ! » cria Cyrus Smith, qui ne voulait pas laisser son chien s'aventurer sur ces eaux suspectes. « Qu'est-ce qui se passe donc là-dessous ? » demanda Pencroff en examinant la surface du lac. « Top aura senti quelque amphibie, » répondit Harbert. « Un alligator, sans doute, » dit le reporter. « Je ne le pense pas, » répondit Cyrus Smith. « Les alligators ne se rencontrent pas dans les régions moins élevées en latitude. » Cependant, Top était revenu à l'appel de son maître et avait regagné la berge. Mais il ne pouvait rester en repos. Il sautait au milieu des grandes herbes et, son instinct le guidant, il semblait suivre quelque être invisible qui se serait glissé sous les eaux du lac en rasant les bords. Cependant, les eaux étaient calmes et pas une ride n'en troublait la surface. Plusieurs fois, les colons s'arrêtèrent sur la berge et ils observèrent avec attention. Rien n'apparut. Il y avait là quelque mystère. L'ingénieur était fort intrigué. « Poursuivons jusqu'au bout cette exploration, » dit-il. Une demi-heure après, ils étaient tous arrivés à l'angle sud-est du lac et se retrouvaient sur le plateau même de grande vue. À ce point, l'examen des rives du lac devait être considéré comme terminé, et cependant, l'ingénieur n'avait pu découvrir par où et comment s'opérait la décharge des eaux. « Pourtant ce déversoir existe, » répétait-il, « et puisqu'il n'est pas extérieur, il faut qu'il soit creusé à l'intérieur du massif granitique de la côte. »« Mais quelle importance attachez-vous à savoir cela, mon cher Cyrus ?» demanda Gédéon Spilett. « Une assez grande, » répondit l'ingénieur, « car si l'épanchement se fait à travers le massif, il est possible qu'il s'y trouve quelques cavités, qu'il eût été facile de rendre habitable après avoir détourné les eaux. Mais n'est-il pas possible, monsieur Cyrus, que les eaux s'écoulent par le fond même du lac, dit Harbert, et qu'elles aillent à la mer par un conduit souterrain? Cela peut être, en effet, répondit l'ingénieur, et si cela est, nous serons obligés de bâtir notre maison nous-mêmes, puisque la nature n'a pas fait les premiers frais de construction. Les colons se disposait donc à traverser le plateau pour regagner les cheminées, car il était 5 heures du soir, quand Top donna de nouveaux signes d'agitation. Il aboyait avec rage, et, Avant que son maître eût pu le retenir, il se précipita une seconde fois dans le lac. Tous coururent vers la berge. Le chien en était déjà à plus de 20 pieds, et Cyrus Smith le rappelait vivement, quand une tête énorme émergea de la surface des eaux, qui ne paraissait pas être profonde en cet endroit. Harbert reconnut aussitôt l'espèce d'amphibie auquel appartenait cette tête conique à gros yeux, que décoraient des moustaches à longs poils soyeux. « Un lamantin ! » s'écria-t-il. Ce n'était pas un lamantin, mais un spécimen de cette espèce comprise dans l'ordre des cétacés, qui porte le nom de dugong, car ses narines étaient ouvertes à la partie supérieure de son museau. L'énorme animal s'était précipité sur le chien, qui voulut vainement l'éviter en revenant vers la berge. Son maître ne pouvait rien pour le sauver, et avant même qu'il fût venu à la pensée de Gédéon Spilett ou d'Harbert d'armer leur arc, Top, saisi par le dugong, disparaissait sous les eaux. Nab, son épieu ferré à la main, voulut se jeter au secours du chien, décidèrent à s'attaquer au formidable animal jusque dans son élément. « Non, Nab !» dit l'ingénieur en retenant son courageux serviteur. Cependant, une lutte se passait sous les eaux, lutte inexplicable, car dans ces conditions, Top ne pouvait évidemment pas résister, lutte qui devait être terrible, on le voyait au bouillonnement de la surface, lutte enfin qui ne pouvait se terminer que par la mort du chien. Mais soudain, au milieu d'un cercle d'écume, on vit reparaître Top. Lancé en l'air par quelque force inconnue, il s'éleva à 10 pieds au-dessus de la surface du lac, retomba au milieu des eaux profondément troublées, et eut bientôt regagné la berge, sans blessure grave, miraculeusement sauvé. Cyrus Smith et ses compagnons regardaient sans comprendre. Circonstance non moins inexplicable encore, on eût dit que la lutte continuait encore sous les eaux. Sans doute le dugong, attaqué par quelque puissant animal, après avoir lâché le chien, se battait pour son propre compte. Mais cela ne dura pas longtemps. Les eaux se rougirent de sang, et le corps du dugong, émergeant d'une nappe écarlate qui se propagea largement, vint bientôt s'échouer sur une petite grève à l'angle sud du lac. Les colons coururent vers cet endroit. Le dugong était mort. C'était un énorme animal, long de 15 pieds, qui devait peser de 3 à 4 000 livres. À son cou, s'ouvrait une blessure qui semblait avoir été faite avec une arme tranchante. Quel était donc l'amphibie qui avait pu, par ce coup terrible, détruire le formidable dugong? Personne n'eût pu le dire, et, assez préoccupé de cet incident, Cyrus Smith et ses compagnons rentrèrent aux cheminées.
Chapitre 17. Le lendemain, 7 mai, Cyrus Smith et Gédéon Spilett, laissant Nab préparer le déjeuner, gravirent le plateau de grande vue, tandis que Harbert et Pencroff remontaient la rivière afin de renouveler la provision de bois. L'ingénieur et le reporter arrivèrent bientôt à cette petite grève, située à la pointe sud du lac, et sur laquelle l'amphibie était resté échoué. Déjà, des bandes d'oiseaux s'étaient abattues sur cette masse charnue, et il fallut les chasser à coups de pierre, car Cyrus Smith désirait conserver la graisse du dugong et l'utiliser pour les besoins de la colonie. Quant à la chair de l'animal, elle ne pouvait manquer de fournir une nourriture excellente, puisque dans certaines régions de la Malaisie, elle est spécialement réservée à la table des princes indigènes. Mais cela, c'était l'affaire de Nab. En ce moment, Cyrus Smith avait en tête d'autres pensées. L'incident de la veille ne s'était point effacé de son esprit, et ne laissait pas de le préoccuper. Il aurait voulu percer le mystère de ce combat sous-marin et savoir quel congénère des mastodontes ou autres monstres marins avait fait au dugong une si étrange blessure. Il était donc là, sur le bord du lac, regardant, observant, mais rien n'apparaissait sous les eaux tranquilles, qui étincelaient aux premiers rayons du soleil. Sur cette petite grève, qui supportait le corps du dugong, les eaux étaient peu profondes, mais à partir de ce point, le fond du lac s'abaissait peu à peu, et il était probable qu'au centre, la profondeur devait être considérable. Le lac pouvait être considéré comme une large vasque qui avait été remplie par les eaux du Creek Rouge. « Eh bien, Cyrus, demanda le reporter, il me semble que ces eaux n'offrent rien de suspect. »« Non, mon cher Spilett, répondit l'ingénieur, et je ne sais vraiment comment t'expliquer l'incident d'hier. » « J'avoue, reprit Gédéon Spilett, que la blessure faite à cet amphibie est au moins étrange, et je ne saurais expliquer davantage comment il a pu se faire que Top ait été si vigoureusement rejeté hors des eaux. On croirait vraiment que c'est un bras puissant qui l'a lancé ainsi, et que ce même bras, armé d'un poignard, a ensuite donné la mort au dugong. » « Oui, répondit l'ingénieur qui était devenu pensif. Il y a quelque chose que je ne puis comprendre. Mais comprenez-vous davantage, mon cher Spilett, de quelle manière j'ai été sauvé moi-même? Comment j'ai pu être arraché des flots et transporté dans les dunes? Non, n'est-il pas vrai? Aussi, je pressens là quelques mystères que nous découvrirons sans doute un jour. Observons donc. » Mais n'insistons pas devant nos compagnons sur ces singuliers incidents. Gardons nos remarques pour nous et continuons notre besogne. On le sait, l'ingénieur n'avait encore pu découvrir par où s'échappait le trop-plein du lac. Mais comme il n'avait vu nul indice qu'il débordât jamais, il fallait nécessairement qu'un déversoir existât quelque part. Or, précisément, Cyrus Smith fut assez surpris de distinguer un courant assez prononcé, mais qui se faisait sentir en cet endroit. Il jeta quelques petits morceaux de bois et vit qu'il se dirigeait vers l'angle sud. Il suivit ce courant en marchant sur la berge et il arriva à la pointe méridionale du lac. Là se produisait une sorte de dépression des eaux, comme si elles se fussent brusquement perdues dans quelque fissure du sol. Cyrus Smith écouta en mettant son oreille au niveau du lac, et il entendit très distinctement le bruit d'une chute souterraine. « C'est là, dit-il en se relevant, là que s'opère la décharge des eaux. Là, sans doute, que par un conduit creusé dans le massif de granit, elles s'en vont rejoindre la mer, à travers quelques cavités, que nous saurions utiliser à notre profit, eh bien je le saurai. » L'ingénieur coupa une longue branche, il la dépouilla de ses feuilles, et, en la plongeant à l'angle des deux rives, il reconnut qu'il existait un large trou, ouvert à un pied seulement au-dessous de la surface des eaux. Ce trou, c'était l'orifice du déversoir vainement cherché jusqu'alors, et la force du courant y était telle que la branche fut arrachée des mains de l'ingénieur et disparut. « Il n'y a plus à douter maintenant, » répéta Cyrus Smith. « Là est l'orifice du déversoir, et cet orifice, je le mettrai à découvert. »« Comment ?» demanda Gédéon Spilett. « En abaissant de 3 pieds le niveau des eaux du lac. »« Et comment abaisser leur niveau ?»« En leur ouvrant une autre issue plus vaste que celle-ci. » « En quel endroit, Cyrus ?»« Sur la partie de la rive qui se rapproche le plus près de la côte. »« Mais c'est une rive de granit, » fit observer le reporter. « Eh bien, » répondit Cyrus Smith, « je le ferai sauter, ce granit. »« Et les eaux, en s'échappant, baisseront de manière à découvrir cet orifice. »« Et formeront une chute en tombant sur la grève, » ajouta le reporter. Une chute que nous utiliserons, répondit Cyrus Smith. Venez, venez. L'ingénieur entraîna son compagnon, dont la confiance en Cyrus Smith était telle qu'il ne doutait pas que l'entreprise ne réussît. Et pourtant, cette rive de granit, comment l'ouvrir? Comment, sans poudre et avec des instruments imparfaits, dégager ces roches? N'était-ce pas un travail au-dessus de ses forces, auquel l'ingénieur allait s'acharner? Quand Cyrus Smith et le reporter rentrèrent aux cheminées, ils y trouvèrent Harbert et Pencroff occupés à décharger leur train de bois. « Les bûcherons vont avoir fini, monsieur Cyrus, » dit le marin en riant, « et quand vous aurez besoin de maçons... »« De maçons, non, mais de chimistes, » répondit l'ingénieur. « Oui, » ajouta le reporter, « nous allons faire sauter l'île. »«
Sauter l'île ?» s'écria Pencroff.
« En partie, du moins, » répliqua Gédéon Spilett. « Écoutez-moi, mes amis, » dit l'ingénieur. Et il leur fit connaître le résultat de ses observations. Suivant lui, une cavité plus ou moins considérable devait exister dans la masse de granit qui supportait le plateau de grande vue, et il prétendait pénétrer jusqu'à elle. Pour ce faire, il fallait tout d'abord dégager l'ouverture par laquelle se précipitaient les eaux, et par conséquent, abaisser leur niveau en leur procurant une plus large issue. De là, nécessité de fabriquer une substance explosive qui pût pratiquer une forte saignée en un autre point de la rive. C'est ce qu'allait tenter Cyrus Smith au moyen des minéraux que la nature mettait à sa disposition. Inutile de dire avec quel enthousiasme tous, et plus particulièrement Pencroff, accueillirent ce projet. Employer les grands moyens, éventrer ce granit, créer une cascade, cela allait au marin. Et il serait aussi bien chimiste que maçon ou bottier, puisque l'ingénieur avait besoin de chimistes. Il serait tout ce qu'on voudrait, même professeur de danse et de maintien, dit-il à Nab, si cela était jamais nécessaire. Nab et Pencroff furent tout d'abord chargés d'extraire la graisse du dugong et d'en conserver la chair qui était destinée à l'alimentation. Ils partirent aussitôt, sans même demander plus d'explications. La confiance qu'ils avaient en l'ingénieur était absolue. Quelques instants après, Cyrus Smith, Harbert et Gédéon Spilett, traînant la claie et remontant la rivière, se dirigeaient vers le gisement de houille où abondaient ces pyrites schisteuses qui se rencontrent en effet dans les terrains de transition les plus récents et dont Cyrus Smith avait déjà rapporté un échantillon. Toute la journée fut employée à charrier une certaine quantité de ces pyrites aux cheminées. Le soir, il y en avait plusieurs tonnes. Le lendemain, 8 mai, l'ingénieur commença ses manipulations. Ces pyrites schisteuses, étant composées principalement de charbon, de silice, d'aluminium et de sulfure de fer, celui-ci en excès, il s'agissait d'isoler le sulfure de fer et de le transformer en sulfate le plus rapidement possible. Le sulfate obtenu, on en extrairait l'acide sulfurique. C'était en effet le but à atteindre. L'acide sulfurique est un des agents les plus employés, et l'importance industrielle d'une nation peut se mesurer à la consommation qui en est faite. Cet acide serait plus tard d'une utilité extrême aux colons pour la fabrication des bougies, le tannage des peaux, etc. Mais en ce moment, l'ingénieur le réservait à un autre emploi. Cyrus Smith choisit, derrière les cheminées, un emplacement dont le sol fut soigneusement égalisé. Sur ce sol, il plaça un tas de branchages et de bois hachés, sur lequel furent placés des morceaux de schiste pyriteux, arc-boutés les uns contre les autres. Puis, le tout fut recouvert d'une mince couche de pyrite, préalablement réduite à la grosseur d'une noix. Ceci fait, on mit le feu au bois, dont la chaleur se communiqua aux schistes, lesquels s'enflammèrent puisqu'ils contenaient du charbon et du soufre. Alors, de nouvelles couches de pyrite concassées furent disposées de manière à former un énorme tas qui fut extérieurement tapissé de terre et d'herbe après qu'on y eut ménagé quelques évents, comme s'il se fût agi de carboniser une meule de bois pour faire du charbon. Puis, on laissa la transformation s'accomplir, et il ne fallait pas moins de 10 à 12 jours pour que le sulfure de fer fût changé en sulfate de fer et l'alumine en sulfate d'alumine, les deux substances également solubles, les autres silice, charbon brûlé et cendres ne l'étant pas. Pendant que s'accomplissait ce travail chimique, Cyrus Smith fit procéder à d'autres opérations. On n'y mettait plus que du zèle, c'était de l'acharnement. Nab et Pencroff avaient enlevé la graisse du dugong, qui avait été recueillie dans de grandes jarres de terre. Cette graisse, il s'agissait d'en isoler un des éléments, la glycérine, en la saponifiant. Or, pour obtenir ce résultat, il suffisait de la traiter par la soude ou la chaux. En effet, l'une ou l'autre de ces substances, après avoir attaqué la graisse, formerait un savon en isolant la glycérine, et c'était cette glycérine que l'ingénieur voulait précisément obtenir. La chaux ne lui manquait pas, on le sait, seulement le traitement par la chaux ne devait donner que des savons calcaires, insolubles et par conséquent inutiles, tandis que le traitement par la soude fournirait au contraire un savon soluble, qui trouverait son emploi dans les nettoyages domestiques. Or, en homme pratique, Cyrus Smith devait plutôt chercher à obtenir de la soude. Était-ce difficile? Non, car les plantes marines abondaient sur le rivage, salicornes, ficoïdes et toutes ces fucacées qui forment les varechs et les guémons. On recueillit donc une grande quantité de ces plantes, on les fit d'abord sécher, puis ensuite brûler dans des fosses en plein air. La combustion de ces plantes fut entretenue pendant plusieurs jours, de manière que la chaleur s'éleva au point d'en fondre les cendres, et le résultat de l'incinération fut une masse compacte, grisâtre, qui est depuis longtemps connue sous le nom de soude naturelle. Ce résultat obtenu, l'ingénieur traita la graisse par la soude, ce qui donna, d'une part, un savon soluble, et de l'autre, cette substance neutre, la glycérine. Mais ce n'était pas tout. Il fallait encore à Cyrus Smith, en vue de sa préparation future, une autre substance, l'azote de potasse, qui est plus connue sous le nom de sel de nitre ou de salpêtre. Cyrus Smith aurait pu fabriquer cette substance en traitant le carbonate de potasse qui s'extrait facilement des cendres des végétaux par de l'acide azotique. Mais l'acide azotique lui manquait, et c'était précisément cet acide qu'il voulait obtenir en fin de compte. Il y avait donc là un cercle vicieux dont il ne fut jamais sorti. Très heureusement, cette fois, la nature allait lui fournir le salpêtre sans qu'il eût d'autre peine que de le ramasser. Harbert en découvrit un gisement dans le nord de l'île, au pied du mont Franklin, et il n'y eut plus qu'à raffiner ce sel. Ces divers travaux durèrent une 20 jours. Ils étaient donc achevés avant que la transformation du sulfure en sulfate de fer eût été accomplie. Pendant les jours qui suivirent, les colons eurent le temps de fabriquer de la poterie réfractaire en argile plastique et de construire un fourneau de briques d'une disposition particulière qui devait servir à la distillation du sulfate de fer lorsque celui-ci serait obtenu. Tout cela fut achevé vers le 18 mai, à peu près au moment où la transformation chimique se terminait. Gédéon Spilett, Harbert, Nab et Pencroff, habilement guidés par l'ingénieur, étaient devenus les plus adroits ouvriers du monde. La nécessité est, d'ailleurs, de tous les maîtres, celui qu'on écoute le plus et qui enseigne le mieux. Lorsque le tas de pyrite eut été entièrement réduit par le feu, le résultat de l'opération, consistant en sulfate de fer, sulfate d'alumine, silice, résidus de charbon et cendres, fut déposé dans un bassin rempli d'eau. On agita ce mélange, on le laissa reposer, puis on le décanta, et on obtint un liquide clair, contenant en dissolution du sulfate de fer et du sulfate d'alumine, les autres matières étant restées solides, puisqu'elles étaient insolubles. Enfin, ce liquide s'étant vaporisé en partie, des cristaux de sulfate de fer se déposèrent, et les eaux mères, c'est-à-dire le liquide non vaporisé, qui contenait du sulfate d'alumine, furent abandonnées. Cyrus Smith avait donc à sa disposition une assez grande quantité de ces cristaux de sulfate de fer dont il s'agissait d'extraire l'acide sulfurique. Dans la pratique industrielle, c'est une coûteuse installation que celle qu'exige la fabrication de l'acide sulfurique. Il faut, en effet, des usines considérables, un outillage spécial, des appareils de platine, des chambres de plomb, inattaquables à l'acide, et dans lesquelles s'opère la transformation, etc. L'ingénieur n'avait point cet outillage à sa disposition, mais il savait qu'en Bohême, particulièrement, on fabrique l'acide sulfurique par des moyens plus simples, qui ont même l'avantage de le produire à un degré supérieur de concentration. C'est ainsi que se fait l'acide connu sous le nom d'acide de Nordhausen. Pour obtenir l'acide sulfurique, Cyrus Smith n'avait plus qu'une seule opération à faire, calciner en vase clos les cristaux de sulfate de fer, de manière que l'acide sulfurique se distillât en vapeur, lesquelles vapeurs produiraient ensuite l'acide par condensation. C'est à cette manipulation que servirent les poteries réfractaires, dans lesquelles furent placés les cristaux et le four, dont la chaleur devait distiller l'acide sulfurique. L'opération fut parfaitement conduite, et le 20 mai, 12 jours après avoir commencé, l'ingénieur était possesseur de l'agent qu'il comptait utiliser plus tard de tant de façons différentes. Or, pourquoi voulait-il donc avoir cet agent? Tout simplement pour produire l'acide azotique, et cela fut aisé, puisque le salpêtre attaqué par l'acide sulfurique lui donna précisément cet acide par distillation. Mais, en fin de compte, à quoi allait-il employer cet acide azotique? C'est ce que ses compagnons ignoraient encore, car il n'avait pas dit le dernier mot de son travail. Cependant, l'ingénieur touchait à son but, et une dernière opération lui procura la substance qui avait exigé tant de manipulations. Après avoir pris de la soude azotique, il le mit en présence de la glycérine, qui avait été préalablement concentrée par évaporation au bain-marie, et il obtint, même sans employer de mélange réfrigérant, plusieurs pintes d'un liquide huileux et jaunâtre. Cette dernière opération, Cyrus Smith l'avait faite seul, à l'écart, loin des cheminées, car elle présentait des dangers d'explosion, et, quand il rapporta un flacon de ce liquide à ses amis, il se contenta de leur dire « Voilà de la nitroglycérine ». C'était en effet ce terrible produit dont la puissance explosive est peut-être décuple de celle de la poudre ordinaire et qui a déjà causé tant d'accidents. Toutefois, depuis qu'on a trouvé le moyen de le transformer en dynamite, c'est-à-dire de le mélanger avec une substance solide, argile ou sucre, assez poreuse pour le retenir, le dangereux liquide a pu être utilisé avec plus de sécurité. Mais la dynamite n'était pas encore connue à l'époque où les colons opéraient dans l'île Lincoln. Et c'est cette liqueur-là qui va faire sauter nos rochers, dit Pencroff d'un air assez incrédule.
« Oui, mon ami, répondit l'ingénieur, et cette nitroglycérine produira d'autant plus d'effet que ce granit est extrêmement dur et qu'il opposera une résistance plus grande à l'éclatement. »
« Et quand verrons-nous cela, monsieur Cyrus ?»«
Demain, dès que nous aurons creusé un trou de mine, » répondit l'ingénieur.
Le lendemain, 21 mai, dès l'aube, les mineurs se rendirent à une pointe qui formait la rive est du lac Grant et à 500 pas seulement de la côte. En cet endroit, le plateau était en contrebas des eaux qui n'étaient retenues que par leur cadre de granit. Il était donc évident que si on brisait ce cadre, les eaux s'échapperaient par cette issue et formeraient un ruisseau qui, après avoir coulé à la surface inclinée du plateau, irait se précipiter sur la grève. Par suite, il y aurait abaissement général du niveau du lac et mise à découvert de l'orifice du déversoir, ce qui était le but final. C'était donc le cadre qu'il s'agissait de briser. Sous la direction de l'ingénieur, Pencroff, armé d'un pic qu'il maniait adroitement et vigoureusement, attaqua le granit sur le revêtement extérieur. Le trou qu'il s'agissait de percer prenait naissance sur une arête horizontale de la rive, et il devait s'enfoncer obliquement, de manière à rencontrer un niveau sensiblement inférieur à celui des eaux du lac. De cette façon, la force explosive, en écartant les roches, permettrait aux eaux de s'épancher largement au dehors et, par suite, de s'abaisser suffisamment. Le travail fut long, car l'ingénieur, voulant produire un effet formidable, ne comptait pas consacrer moins de 10 litres de nitroglycérine à l'opération. Mais Pencroff, relayé par Nab, fit si bien que, vers 4 heures du soir, le trou de mine était achevé. Restait la question d'inflammation de la substance explosive. Ordinairement, la nitroglycérine s'enflamme au moyen d'amorces de fulminate qui, en éclatant, déterminent l'explosion. Il faut, en effet, un choc pour provoquer l'explosion, et, allumée simplement, cette substance brûlerait sans éclater. Cyrus Smith aurait certainement pu fabriquer une amorce. À défaut de fulminate, il pouvait facilement obtenir une substance analogue au coton-poudre, puisqu'il avait de l'acide azotique à sa disposition. Cette substance pressée dans une cartouche et introduite dans la nitroglycérine aurait éclaté au moyen d'une mèche et déterminé l'explosion. Mais Cyrus Smith savait que la nitroglycérine a la propriété de détonner au choc. Il résolut donc d'utiliser cette propriété, quitte à employer un autre moyen si celui-là ne réussissait pas. En effet, le choc d'un marteau sur quelques gouttes de nitroglycérine, répandues à la surface d'une pierre dure, suffit à provoquer l'explosion. Mais l'opérateur ne pouvait être là à donner le coup de marteau sans être victime de l'opération. Cyrus Smith imagina donc de suspendre à un montant, au-dessus du trou de mine, et au moyen d'une fibre végétale, une masse de fer pesant plusieurs livres. Une autre longue fibre, préalablement soufrée, était attachée au milieu de la première par une de ses extrémités, tandis que l'autre extrémité traînait sur le sol jusqu'à une distance de plusieurs pieds du trou de mine. Le feu étant mis à cette seconde fibre, elle brûlerait jusqu'à ce qu'elle eût atteint la première, celle-ci, prenant feu à son tour, se romprait, et la masse de fer serait précipitée sur la nitroglycérine. Cet appareil fut donc installé, puis l'ingénieur, après avoir fait éloigner ses compagnons, remplit le trou de mine de manière que la nitroglycérine vint à affleurer l'ouverture, et il en jeta quelques gouttes à la surface de la roche, au-dessous de la masse de fer déjà suspendue. Ceci fait, Cyrus Smith prit l'extrémité de la fibre soufrée Il l'alluma, et quittant la place, il revint retrouver ses compagnons aux cheminées. La fibre devait brûler pendant 25 minutes, et, en effet, 25 minutes après, une explosion, dont on ne saurait donner l'idée, retentit. Il sembla que toute l'île tremblait sur sa base. Une gerbe de pierre se projeta dans les airs, comme si elle eût été vomie par un volcan. La secousse produite par l'air déplacé fut telle que les roches des cheminées oscillèrent. Les colons, bien qu'ils fussent à plus de 2 milles de la mine, furent renversés sur le sol. Ils se relevèrent, ils remontèrent sur le plateau, et ils coururent vers l'endroit où la berge du lac devait avoir été éventrée par l'explosion. Un triple « hurrah » s'échappa de leur poitrine. Le cadre de granit était fendu sur une large place. Un cours rapide d'eau s'en échappait, courait en écumant à travers le plateau, en atteignait la crête, et se précipitait d'une hauteur de 300 pieds sur la grève.
Chapitre 18. Le projet de Cyrus Smith avait réussi, mais, suivant son habitude, sans témoigner aucune satisfaction, les lèvres serrées, le regard fixe, il restait immobile. Harbert était enthousiasmé, Nab bondissait de joie, Pencroff balançait sa grosse tête et murmurait ces mots. « Allons, il va bien, notre ingénieur. » En effet, la nitroglycérine avait puissamment agi. La saignée, faite au lac, était si importante que le volume des eaux qui s'échappaient alors par ce nouveau déversoir était au moins triple de celui qui passait auparavant par l'ancien. Il devrait donc en résulter que peu de temps après l'opération, le niveau du lac aurait baissé de 2 pieds au moins. Les colons revinrent aux cheminées afin d'y prendre des pics, des épieux ferrés, des cordes de fibres, un briquet et de l'amadou, puis ils retournèrent au plateau. Top les accompagnait. Chemin faisant, le marin ne put s'empêcher de dire à l'ingénieur « Mais savez-vous bien, monsieur Cyrus, qu'au moyen de cette charmante liqueur que vous avez fabriquée, on ferait sauter notre île tout entière ?»«
Sans aucun doute, l'île, les continents et la terre elle-même, » répondit Cyrus Smith. Ce n'est qu'une question de quantité. Ne pourriez-vous donc employer cette nitroglycérine au chargement des armes à feu ? Demanda le marin.
Non, Pencroff, car c'est une substance trop brisante. Mais il serait aisé de fabriquer de la poudre coton, ou même de la poudre ordinaire, puisque nous avons l'acide azotique, le salpêtre, le soufre et le charbon. Malheureusement, ce sont les armes que nous n'avons pas.
« Oh, monsieur Cyrus, » répondit le marin, avec un peu de bonne volonté. Décidément, Pencroff avait rayé le mot « impossible » du dictionnaire de l'île Lincoln. Les colons, arrivés au plateau de grande vue, se dirigèrent immédiatement vers la pointe du lac, près de laquelle s'ouvrait l'orifice de l'ancien déversoir qui, maintenant, devait être à découvert. Le déversoir serait donc devenu praticable, puisque les eaux ne s'y précipiteraient plus, et il serait facile sans doute d'en reconnaître la disposition intérieure. En quelques instants, les colons avaient atteint l'angle inférieur du lac, et un coup d'œil leur suffit pour constater que le résultat avait été obtenu. En effet, dans la paroi granitique du lac, et maintenant au-dessus du niveau des eaux, apparaissait l'orifice tant cherché. Un étroit épaulement, laissé à nu par le retrait des eaux, permettait d'y arriver. Cet orifice mesurait 20 pieds de largeur environ, mais il n'en avait que 2 de hauteur. C'était comme une bouche d'égout à la bordure d'un trottoir. Cet orifice n'aurait donc pu livrer un passage facile aux colons. Mais Nab et Pencroff prirent leur pic, et en moins d'une heure, ils lui eurent donné une hauteur suffisante. L'ingénieur s'approcha alors et reconnut que les parois du déversoir, dans sa partie supérieure, n'accusaient pas une pente de plus de 30 à 35 degrés. Elles étaient donc praticables, et, pourvu que leur déclivité ne s'accrût pas, il serait facile de les descendre jusqu'au niveau même de la mer. Si donc, ce qui était fort probable, quelque vaste cavité existait à l'intérieur du massif granitique, on trouverait peut-être moyen de l'utiliser.
« Eh bien, monsieur Cyrus, qu'est-ce qui nous arrête ?» demanda le marin, impatient de s'aventurer dans l'étroit couloir.
« Vous voyez que Top nous a précédés ?»«
Bien, répondit l'ingénieur, mais il faut y voir clair. Nab, va couper quelques branches résineuses. »
Nab et Harbert coururent vers les rives du lac, ombragés de pins et autres arbres verts, et ils revinrent bientôt avec des branches qu'ils disposèrent en forme de torches. Ces torches furent allumées au feu du briquet, et Cyrus Smith en tête, les colons s'engagèrent dans le sombre boyau que le trop-plein des eaux emplissait naguère. Contrairement à ce qu'on eût pu supposer, le diamètre de ce boyau allait en s'élargissant, de telle sorte que les explorateurs, presque aussitôt, purent se tenir droit en descendant. Les parois de granit, usées par les eaux depuis un temps infini, étaient glissantes, et il fallait se garder des chutes. Aussi, les colons s'étaient-ils liés les uns aux autres au moyen d'une corde, ainsi que font les ascensionnistes dans les montagnes. Heureusement, quelques saillies du granit, formant de véritables marches, rendait la descente moins périlleuse. Des gouttelettes, encore suspendues au roc, s'irisaient çà et là sous le feu des torches, et on eût pu croire que les parois étaient revêtues d'innombrables stalactites. L'ingénieur observa ce granit noir. Il n'y vit pas une strate, pas une faille. La masse était compacte et d'un grain extrêmement serré. Ce boyau datait donc de l'origine même de l'île. Ce n'étaient point les eaux qui l'avaient creusé peu à peu. Pluton, et non pas Neptune, l'avait foré de sa propre main, et l'on pouvait distinguer sur la muraille les traces d'un travail éruptif que le lavage des eaux n'avait pu totalement effacer. Les colons ne descendaient que fort lentement. Ils n'étaient pas sans éprouver une certaine émotion à s'aventurer ainsi dans les profondeurs de ce massif que des êtres humains visitaient évidemment pour la première fois. Ils ne parlaient pas, mais ils réfléchissaient, et cette réflexion dut venir à plus d'un que quelques poulpes ou autres gigantesques céphalopodes pouvaient occuper les cavités inférieures qui se trouvaient en communication avec la mer. Il fallait donc ne s'aventurer qu'avec une certaine prudence. Du reste, Top tenait la tête de la petite troupe, et l'on pouvait s'en rapporter à la sagacité du chien, qui ne manquerait point de donner l'alarme le cas échéant. Après avoir descendu une centaine de pieds, en suivant une route assez sinueuse, Cyrus Smith, qui marchait en avant, s'arrêta, et ses compagnons le rejoignirent. L'endroit où ils firent halte était évidé, de manière à former une caverne de médiocre dimension. Des gouttes d'eau tombaient de sa voûte, mais elles ne provenaient pas d'un suintement à travers le massif. C'étaient simplement les dernières traces laissées par le torrent qui avait si longtemps grondé dans cette cavité, et l'air, légèrement humide, n'émettait aucune émanation méphitique. « Eh bien, mon cher Cyrus, dit alors Gédéon Spilett. Voilà une retraite bien ignorée, bien cachée dans ses profondeurs, mais, en somme, elle est inhabitable.
Pourquoi inhabitable ? Demanda le marin.
Parce qu'elle est trop petite et trop obscure.
Ne pouvons-nous l'agrandir, la creuser, y pratiquer des ouvertures pour le jour et l'air ? Répondit Pencroff, qui ne doutait plus de rien.
« Continuons, répondit Cyrus Smith, continuons notre exploration. Peut-être plus bas, la nature nous aura-t-elle épargné ce travail.
Nous ne sommes encore qu'au tiers de la hauteur, fit observer Harbert.
Au tiers environ, répondit Cyrus Smith, car nous avons descendu une centaine de pieds depuis l'orifice, et il n'est pas impossible qu'à 100 pieds plus bas.
Où est donc Top ? Demanda Nab en interrompant son maître.
On chercha dans la caverne. Le chien n'y était pas.
Il aura probablement continué sa route, dit Pencroff.
Rejoignons-le, répondit Cyrus Smith.
La descente fut reprise.
L'ingénieur observait avec soin les déviations que le déversoir subissait, et, malgré tant de détours, il se rendait assez facilement compte de sa direction générale, qui allait vers la mer.
Les colons s'étaient encore abaissés d'une cinquantaine de pieds, suivant la perpendiculaire, quand leur attention fut attirée par des sons éloignés, qui venaient des profondeurs du massif. Ils s'arrêtèrent et écoutèrent. Ces sons portés à travers le couloir comme la voix à travers un tuyau acoustique arrivaient nettement à l'oreille.
« Ce sont les aboiements de Top !» s'écria Harbert.
« Oui, répondit Pencroff, et notre brave chien aboie même avec fureur. »
« Nous avons nos épieux ferrés, dit Cyrus Smith. Tenons-nous sur nos gardes et en avant. »
« Cela est de plus en plus intéressant, » murmura Gédéon Spilett à l'oreille du marin, qui fit un signe affirmatif.
Cyrus Smith et ses compagnons se précipitèrent pour se porter au secours du chien. Les aboiements de Top devenaient de plus en plus perceptibles. On sentait dans sa voix, saccadée, une rage étrange. Était-il donc aux prises avec quelque animal dont il avait troublé la retraite? On peut dire que, sans songer au danger auquel il s'exposait, les colons se sentaient maintenant pris d'une irrésistible curiosité. Ils ne descendaient plus le couloir, ils se laissaient pour ainsi dire glisser sur sa paroi. Et en quelques minutes, 60 pieds plus bas, ils eurent rejoint Top. Là, le couloir aboutissait à une vaste et magnifique caverne. Là, Top, allant et venant, aboyait avec fureur. Pencroff et Nab, secouant leurs torches, jetèrent de grands éclats de lumière à toutes les aspérités du granit, et en même temps, Cyrus Smith, Gédéon Spilett, Harbert, les pieux dressés, se tinrent prêts à tout événement. L'énorme caverne était vide. Les colons la parcoururent en tous sens. Il n'y avait rien, pas un animal, pas un être vivant. Et cependant, Top continuait d'aboyer. Ni les caresses, ni les menaces ne purent le faire taire.
« Il doit y avoir quelque part une issue par laquelle les eaux du lac s'en allaient à la mer, » dit l'ingénieur.
« En effet, » répondit Pencroff, « et prenons garde de tomber dans un trou. »
« Va, Top, va !» cria Cyrus Smith.
Le chien, excité par les paroles de son maître, courut vers l'extrémité de la caverne, et là, ses aboiements redoublèrent. On le suivit, et, à la lumière des torches, apparut l'orifice d'un véritable puits qui s'ouvrait dans le granit. C'était bien par là que s'opérait la sortie des eaux autrefois engagées dans le massif, et cette fois, ce n'était plus un couloir oblique et praticable, mais un puits perpendiculaire dans lequel il eût été impossible de s'aventurer. Les torches furent penchées au-dessus de l'orifice. On ne vit rien. Cyrus Smith détacha une branche enflammée et la jeta dans cet abîme. La résine éclatante, dont le pouvoir éclairant s'accrut encore par la rapidité de la chute, illumina l'intérieur du puits, mais rien n'apparut encore. Puis, la flamme s'éteignit avec un léger frémissement, indiquant qu'elle avait atteint la couche d'eau, c'est-à-dire le niveau de la mer. L'ingénieur, calculant le temps employé à la chute, put en estimer la profondeur du puits, qui se trouva être de 90 pieds environ. Le sol de la caverne était donc situé à 90 pieds au-dessus du niveau de la mer.
« Voici notre demeure, » dit Cyrus Smith. Mais elle est occupée par un être quelconque, répondit Gédéon Spilett, qui ne trouvait pas sa curiosité satisfaite. Eh bien, l'être quelconque, amphibie ou autre, s'est enfui par cette issue, répondit l'ingénieur, et il nous a cédé la place. N'importe, ajouta le marin, j'aurais bien voulu être top, il y a un quart d'heure, car enfin, ce n'est pas sans raison qu'il a aboyé. Cyrus Smith regardait son chien, et celui de ses compagnons qui se fut approché de lui l'eût entendu murmurer ces paroles. « Oui, je crois bien que Top en sait plus long que nous sur bien des choses. » Cependant, les désirs des colons se trouvaient en grande partie réalisés. Le hasard, aidé par la merveilleuse sagacité de leur chef, les avait heureusement servis. Ils avaient là, à leur disposition, une vaste caverne, dont ils ne pouvaient encore estimer la capacité à la lueur insuffisante des torches, mais qu'il serait certainement aisé de diviser en chambres, au moyen de cloisons de briques, et d'approprier, sinon comme une maison, du moins comme un spacieux appartement. Les eaux l'avaient abandonné, et n'y pouvaient plus revenir, la place était libre. Restaient deux difficultés. Premièrement, la possibilité d'éclairer cette excavation creusée dans un bloc plein. Deuxièmement, la nécessité d'en rendre l'accès plus facile. Pour l'éclairage, il ne fallait point songer à l'établir par le haut, puisqu'une énorme épaisseur de granit plafonnait au-dessus d'elle. Mais peut-être pourrait-on percer la paroi antérieure qui faisait face à la mer. Cyrus Smith, qui, pendant la descente, avait apprécié assez approximativement l'obliquité, et par conséquent la longueur du déversoir, était fondé à croire que la partie antérieure de la muraille devait n'être que peu épaisse. Si l'éclairage était ainsi obtenu, l'accès le serait aussi, car il était aussi facile de percer une porte que des fenêtres, et d'établir une échelle extérieure. Cyrus Smith fit part de ses idées à ses compagnons. « Alors, monsieur Cyrus, à l'ouvrage, » répondit Pencroff. « J'ai mon pic, et je saurai bien me faire jour à travers ce mur. Où faut-il frapper ?»« Ici, » répondit l'ingénieur, en indiquant au vigoureux marin un renfoncement assez considérable de la paroi, et qui devait en diminuer l'épaisseur. Pencroff attaqua le granit, et pendant une demi-heure, à la lueur des torches, il en fit voler les éclats autour de lui. La roche étincelait sous son pic. Nab le relaya, puis Gédéon Spilett après Nab. Ce travail durait depuis 2 heures déjà, et l'on pouvait donc craindre qu'en cet endroit la muraille n'excédât la longueur du pic, quand, à un dernier coup porté par Gédéon Spilett, l'instrument passant au travers du mur tomba au dehors. « Hurrah ! Toujours hurrah ! » s'écria Pencroff. La muraille ne mesurait là que 3 pieds d'épaisseur. Cyrus Smith vint appliquer son œil à l'ouverture, qui dominait le sol de 80 pieds. Devant lui s'étendait la lisière du rivage, l'îlot, et au-delà, l'immense mer. Mais par ce trou assez large, car la roche s'était désagrégée notablement, la lumière entra à flot et produisit un effet magique en inondant cette splendide caverne. Si, dans sa partie gauche, elle ne mesurait pas plus de 30 pieds de haut et de large sur une longueur de 100 pieds, au contraire, à sa partie droite elle était énorme, et sa voûte s'arrondissait à plus de 80 pieds de hauteur. En quelques endroits, des piliers de granit, irrégulièrement disposés, en supportaient les retombées comme celles d'une nef de cathédrale. Appuyés sur des espèces de pieds droits latéraux, ici se surbaissant en cintre, là s'élevant sur des nervures ogivales, se perdant sur des travées obscures dont on entrevoyait les capricieux arceaux dans l'ombre, ornés à profusion de saillies qui formaient comme autant de pendentifs, cette voûte offrait un mélange pittoresque de tout ce que les architectures byzantines
romane et gothique ont produit sous la main de l'homme. Et ici, pourtant, ce n'était que l'œuvre de la nature. Elle seule avait creusé ce féerique Alhambra dans un massif de granit. Les colons étaient stupéfaits d'admiration. Où ils ne croyaient trouver qu'une étroite cavité, ils trouvaient une sorte de palais merveilleux, et Nab s'était découvert comme s'il eût été transporté dans un temple. Des cris d'admiration étaient partis de toutes les bouches. Les hurrahs retentissaient et allaient se perdre d'écho en écho jusqu'au fond des sombres nefs. « Ah, mes amis !» s'écria Cyrus Smith, « quand nous aurons largement éclairé l'intérieur de ce massif, quand nous aurons disposé nos chambres, nos magasins, nos offices, dans sa partie gauche, il nous restera encore cette splendide caverne dont nous ferons notre salle d'études et notre musée. « Et nous l'appellerons ?» demanda Harbert. « Granite House, » répondit Cyrus Smith, nom que ses compagnons saluèrent encore de leur hurrah. En ce moment, les torches étaient presque entièrement consumées, et comme, pour revenir, il fallait regagner le sommet du plateau en remontant le couloir, il fut décidé que l'on remettrait au lendemain les travaux relatifs à l'aménagement de la nouvelle demeure. Avant de partir, Cyrus Smith vint se pencher encore une fois au-dessus du puits sombre qui s'enfonçait perpendiculairement jusqu'au niveau de la mer. Il écouta avec attention. Aucun bruit ne se produisit, pas même ceux des eaux que les ondulations de la houle devaient quelquefois agiter dans ses profondeurs. Une résine enflammée fut encore jetée, les parois du puits s'éclairèrent un instant, mais pas plus cette fois que la première, il ne se révéla rien de suspect. Si quelque monstre marin avait été inopinément surpris par le retrait des eaux, il avait maintenant regagné le large par le conduit souterrain qui se prolongeait sous la grève et que suivait le trop-plein du lac avant qu'une nouvelle issue lui eût été offerte. Cependant, l'ingénieur, immobile, l'oreille attentive, le regard plongé dans le gouffre, ne prononçait pas une parole. Le marin s'approcha de lui, alors, et le touchant du bras. « Monsieur Smith, » dit-il. « Que voulez-vous, mon ami ?» répondit l'ingénieur, comme s'il fût revenu du pays des rêves. « Les torches vont bientôt s'éteindre. » « En route !» s'écria Cyrus Smith. La petite troupe quitta la caverne et commença son ascension à travers le sombre déversoir. Top fermait la marche et faisait encore entendre de singuliers grognements. L'ascension fut assez pénible. Les colons s'arrêtèrent quelques instants à la grotte supérieure, qui formait comme une sorte de palier à mi-hauteur de ce long escalier de granit. Puis ils recommencèrent à monter. Bientôt, un air plus frais se fit sentir, les gouttelettes séchées par l'évaporation ne scintillaient plus sur les parois. La clarté fuligineuse des torches pâlissait. Celle que portait Nab s'éteignit, et pour ne pas s'aventurer au milieu d'une obscurité profonde, il fallait se hâter. C'est ce qui fut fait, et, un peu avant 4 heures, au moment où la torche du marin s'éteignait à son tour, Cyrus Smith et ses compagnons débouchaient par l'orifice du déversoir.